Eh bien, c'est sur ces notes de Jimi Hendrix que nous reprenons la deuxième partie d'Onde Noire.
Toujours sur Agora FM.
Agora Côte d'Azur.
On a toujours, c'est dur parce qu'en ce moment, c'est pratiquement à chaque émission qu'on est obligé de faire un petit au revoir à un écrivain qu'on ne connaissait pas, mais qu'on aimait beaucoup, très célèbre, suédois, Henning Mankell. Henning Mankell s'est éteint il y a, je crois, deux, trois jours. Voilà, c'est quelqu'un qui avait porté très haut le roman noir suédois, qui était connu dans le monde entier, avec son personnage de Kurt Wallander. Mais il faut aussi découvrir l'autre veine de Henning Mankell. Henning Mankell travaillait beaucoup en Afrique, et il a écrit aussi des romans qui sont peut-être aussi des romans noirs, mais qui sont moins des romans policiers, et qu'on retrouve, en particulier son dernier, Sable Mouvant, qui parlait justement de sa maladie. Et puis, redécouvrir les romans chez Seuil ou Point Seuil de Henning Mankell, avec en particulier les premiers qui nous avaient tant enthousiasmés, les Nuits de la Saint-Jean ou Les Chiens de Riga. Voilà, donc... comme on dit toujours, les livres restent, donc découvrez-les ou redécouvrez-les.
The show must go on.
Voilà. Nous, on va vous parler des coups de cœur qu'on a eus, les lectures un petit peu de cet été. Et c'est vrai qu'on va surtout s'intéresser, pendant ces premières émissions, au roman de la rentrée. Mais je fais une exception pour un roman qui était sorti il y a quelques mois, mais il est un petit peu passé à la trappe. Et puis, je ne l'ai lu que cet été. Et c'est un très gros coup de cœur, donc... il faut absolument que je vous en parle. En plus, la couverture est d'un bleu absolument superbe. C'est un livre qu'on remarque, qui est très beau. C'est un livre qui s'appelle « Derrière les panneaux, il y a des hommes ». C'est un livre qui est écrit par Joseph Incardona et c'est paru aux éditions Finitude. Alors, pour commencer à vous parler de ce roman, je vais vous faire une toute petite citation. Il y a une scansion et il y a des fois carrément comme des poèmes dans la narration de ce livre. Et à un moment donné, Joseph Incardona dit « L'autoroute est un territoire avec ses habitants, ses âmes en errance. » Et ça, je trouve que ces trois petites phrases décrivent très très bien tout le roman. Joseph Incardona, il a donc choisi un endroit pour le moins inhabituel, tout à la fois tentaculaire et immense, mais aussi très huis clos, parce que c'est pas si évident que ça d'en sortir pour certaines personnes. Eh bien, c'est ce territoire, c'est une aire d'autoroute et les quelques kilomètres de bitume qu'il y a aux alentours, les deux côtés de l'autoroute, une ou deux bifurcations, mais c'est tout. Et c'est là que se situe son roman. C'est un cadre notoirement déshumanisé. Et ce qui est étrange, c'est qu'il arrive à nous plonger complètement dans les souffrances de quelques êtres humains. Dans cette aire d'autoroute, on va y croiser le premier personnage, c'est Pierre, qui est à la recherche de l'homme qui a kidnappé et certainement, on ne le sait pas vraiment, mais parce qu'on n'a pas retrouvé le corps, certainement tué sa fille. Et lui, il a tout abandonné pour traquer le monstre. Et lui, il vit sur cette aire d'autoroute, sur ces quelques kilomètres, il vit. Est-ce qu'il peut dire qu'il vit ? Non, il vit pas, il survit. Entre deux camions, entre deux stations-service. Il y a aussi Pascal. Il est cuistot, lui. Il est cuistot, il sert aussi dans ces fameux restos autoroutiers dont personne ne veut, mais qui sont bandés en été. Et Pascal, c'est celui qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit pas, mais qui sait tout, qui observe tout. Qui vit dans un monde de silence aussi. Il est devenu sourd après un grave accident. Et c'est aussi un monde de souffrance. Le week-end du 15 août, au milieu des centaines de milliers d'anonymes qui se croisent, une jeune ado, Marie, disparaît. Et à partir de là, je dirais, bienvenue en enfer. L'enfer des parents, l'enfer des flics, l'enfer des camionneurs, l'enfer des putes qui sont à demeure sur ces aires d'autoroute. Il y a aussi l'enfer d'Ingrid, la femme de Pierre. Alors elle, moi je l'appelle l'immobile, parce que les autres, aux alentours de l'autoroute, ils bougent. Non, elle, depuis que sa fille a disparu, Depuis donc quelques mois, elle est restée chez elle, c'est l'immobile, elle ne sort plus de chez elle. Elle vit son calvaire jour après jour, entre deux Bloody Mary, et puis il y a bien aussi quelques livreurs de pizza, auxquels elle offre son corps, totalement vide de sens, vide de ses sens. Ici, les humains sont décrits de manière très étrange, mais très intéressante. Ils sont tour à tour réduits à leurs instincts, à des empilements d'organes, des suintements, des fluides nauséabonds. Et puis, tout d'un coup, au détour d'une phrase, ils vont être transfigurés par leur souffrance, leur passion, leur peur. À ce désespoir de chacun, ces désespérances, Joséphine Cardona n'apporte nulle réponse. Ici, ailleurs, avant, l'homme est avant tout un animal soi-disant supérieur, puisqu'il possède une conscience. Mais finalement, cette conscience, c'est complètement son handicap. Parfois, les instincts, l'animalité a du bon. Lorsque, par exemple, les flics qui enquêtent sur la disparition de Marie, donc les flics, c'est Julie et son adjoint Thierry, vont sauter l'un sur l'autre, en gros. Ils vont s'accoupler 10 minutes pour oublier, je cite, la désolation, le stress, la peur, qui rendent le plaisir si fort, donc cette animalité qui ressort à certains moments. Joséphine Cardona, dans ce livre, a une scansion totalement parfaite pour instiller au récit les battements de cœur, les pulsations du sang qui oxygènent ces espèces de fantômes qui ne supporteront jamais, évidemment, la disparition d'un proche, qui ne supporteront jamais l'idée de la mort, de leur mort et de leur propre dissolution dans le néant. Et je terminerai comme j'ai commencé par une citation. Malgré les quarks, on ne peut pas faire plus petit que seul avec soi-même. Parce que ce qu'il en ressort, c'est une immense solitude. Voilà, je rappelle le titre. Derrière les panneaux, il y a des hommes. Le roman est édité chez Finitude. Et c'est du très bon romancier Joséphine Cardona. Un petit peu de musique, Jacques.
Un petit peu de musique. Donc les personnages dont tu viens de parler sont dans de grands troubles. Et c'est un peu, c'est le titre de la chanson que nous allons écouter, une chanson de Keith Richards qui vient
plus Trouble, de 20... Troubles alors.
Troubles, peut-être. Voilà, oui. Mais bon, c'était pour faire le lien. Voilà, c'est extrait de son nouvel album qui est sorti en fin d'été, un excellent album. Ça faisait 20 ans qu'il en a pas fait en solo. Et on va écouter. C'est un morceau qui commence par un riff digne du Keith Richards des Stones. Et cerise sur le gâteau, je chante pas si mal que ça.
Off the streets again. That don't mean that I can't help you, or I ain't your friend. Maybe trouble is your middle name. The trouble is that your game. Now you're out of circulation, out of reach, out of touch. So I can't tell you much. Maybe trouble is your little name. Trouble is that you gave. I can't see you anymore. That's because, honey, you're doing too to fall. Maybe trouble is your middle name. The trouble is that there's your game. Again. That don't I could get you off the hook, but I know when I get you out, I won't get a second look. Baby, the trouble is your middle name. The trouble is that that's your game.
De jolies notes. Et effectivement, tu as raison. Il a dû prendre quelque chose pour la voix ou prendre des cours de chant, peut-être, mais peut-être. C'est vrai qu'il chante un petit peu mieux. Alors, dans le livre, c'est un hasard, mais dans le livre dont tu vas nous parler maintenant, Jacques, eh bien, il est question un petit moment, hein, c'est pas du tout le sujet du livre, mais.
Il est question de Keith Richards.
Plutôt
pour certaines de ses mauvaises habitudes dont il, je pense, s'est débarrassé.
Plutôt que pour sa musique et voilà. Son chant.
Donc le roman dont je vais vous parler, c'est un roman de Todd Robinson qui s'appelle Cassandra, qui est publié aux éditions Gallmeister dans la collection Néo-Noir et qui est traduit de l'anglais, en fait, plutôt de l'américain, par Laurent Burry. Donc dans ce roman, il y a deux personnages principaux. William Malone, qui est surnommé Boo, et Darrell McCullough, qui est surnommé Junior. Ce sont les membres fondateurs et principaux de la 4PC Security. Alors, 4PC, c'est pour plan pourri pour pas cher. Plan pourri pour pas cher.
Et ils font, oui, 4P.
Voilà, 4P, et c'est cher.
Plan
c'est
pourri,
cher, voilà.
Pour, oui, c'est, ah, d'accord, oui. Voilà, mais c'est pas de l'informatique.
Non, c'est une boîte qui est une petite boîte de sécurité qui est à Boston, dans le Massachusetts. Alors, ces deux gars sont amis d'enfance, une enfance dans un orphelinat, le genre d'orphelinat qui vous forge un bon caractère et aussi une bonne musculature. En fait, la plupart du temps, ils sont videurs dans un bar, une boîte de nuit de banlieue, une banlieue pas forcément des plus sélectes. Le bar s'appelle le Cellar, donc la cave.
Cellar.
Ils vont avoir un nouveau contrat avec cette 4PC Security et on va leur demander de retrouver Cassandra. Cassandra, c'est la fille, une jeune adolescente qui est la fille du futur maire, enfin en tous les cas d'un des candidats à la mairie de Boston. Et ils vont avoir, et à ce moment-là, leur quotidien un peu train-train va basculer. Ils vont avoir comme intermédiaire entre eux et le maire un flic véreux. Et une jeune et séduisante attachée de communication. Et ça va partir dans une histoire.
J'ai toujours remarqué que les attachés de communication étaient toujours jeunes et séduisantes.
Ben, généralement, c'est un peu leur rôle. Et donc, on va partir dans un roman qui va un peu être déjanté, il faut bien le dire. On ne peut que penser en fait à App et Léonard, si on les a déjà lus, les personnages de Joe Lansdale. Parce qu'il va y avoir des bagarres homériques, des dialogues plutôt enlevés. Et puis au bout d'un moment, on va tomber dans le noir, dans le sombre en tous les cas. Car les deux personnages vont découvrir les dessous sordides de la ville, les magouilles des politiques, les petites et les grandes corruptions et quelques autres turpitudes dont ils auraient bien aimé ne pas savoir en tous les cas. C'est un roman qui est mené à fond la caisse, même si cette caisse, à un moment, se trouve être un vieux bus Volkswagen des années 70, vous savez, qui n'était pas hippie.
Flower voilà. Power.
Et au départ, il semblerait pas très utile, mais tant, il va bien rendre service. Beau et Junior n'ont jamais recours à un plan B dans leur démarche. Pour la bonne raison que des plans B, ils n'en ont jamais.
Mais le plan A marche pas non plus.
Et le plan A, pas tout le temps non plus. Alors Todd Robinson glisse quand même un peu de romantisme, de sentimentalité, comme il disait. De sentimentalité, comme disait tout à l'heure Cyril Héry dans la première partie. Et aussi beaucoup d'humour. Des scènes carrément jubilatoires et même quelques invraisemblances, mais qui lui permettent de faire quand même tenir son récit, bizarrement. Tout ça pour mieux appuyer sa description de Boston, une ville plutôt plus glauque que sympathique, en tous les cas, du moins telle qu'il la raconte. C'est du polar comme on les aime, disons vif, dynamique, réjouissant, et pourtant bien ancré dans notre société. Du polar comme on les aime, avec deux héros un peu bastringues, mais qu'on s'attend déjà à retrouver. Alors c'est quand même le...
On pense qu'il va y avoir une suite.
Je sais pas, parce qu'en fait c'est son premier roman et son seul roman publié. Il a écrit d'autres nouvelles, mais pour un premier roman c'est quand même une très très belle réussite. Il faut dire que Todd Robinson, l'auteur, il est barman dans la vie, mais il est aussi directeur d'une revue consacrée aux romans noirs et aux polars aux États-Unis. Donc son sujet, il connaît bien.
Il connaît bien les codes.
Je voulais vous citer quand même un petit extrait qui parle alors du personnage, parce que j'ai l'impression que c'est des gros bagarreurs, tout ça, mais en fait, non, ils ont une vie, une tendresse, une... Voilà, ce sont des...
Tu y attaché, finalement.
Voilà, on s'y attache. Et donc, à un moment, parce qu'il rencontre la jeune attachée de communication lui plaît beaucoup et il se rend compte qu'il est seul et donc il dit « La solitude est un sentiment que j'étais depuis longtemps venu à accepter. Mais cette solitude était d'un genre nouveau pour moi, comment dire, elle me blessait. Elle me blessait à des endroits dont j'ignorais qu'ils étaient encore reliés à mon système nerveux. »
Voilà, c'est sur ces jolies paroles que nous allons clore notre émission. Donc, je rappelle, allez voir sur le site des éditions Écorce et allez voir votre libraire. Et puis, derrière les panneaux, il y a des hommes de Joséphine Cardona et Cassandra de Todd Robinson.
Chez Gallmeister.
Au revoir à chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.